À quoi vont ressembler les villes de demain dans un contexte de raréfaction énergétique, dans un contexte écosystémique très différent de celui qu'on a connu? C'est ce que notre confrère Arnaud Pagès investigue dans son livre chez Michel Lafon, Les villes de demain.
La première, le fin mot, Eddy Kakelbergs.
On a une isolation hyper renforcée, donc il va même bien au-delà des normes actuelles. L'étanchéité à l'air, donc toutes les maisons sont conçues avec un pare-vapeur et des membranes étanches pour vraiment éviter les courants d'air, pour éviter toute déperdition thermique. Et bien sûr, on a une ventilation mécanique contrôlée qui est installée dans chaque maison pour renouveler l'air sans perdre trop de calories. C'est-à-dire que l'air entrant est neuf et sain, est réchauffé au contact par un échangeur de calories avec l'air sortant humide et chaud.
L'objectif, c'est de démontrer que c'est un projet qui est exemplaire, donc non seulement l'énergie, mais il y a aussi l'éclairage naturel, confort, gestion de l'eau, donc par exemple la récupération de l'eau de pluie. Il y a une partie des toitures de la crèche qui est végétalisée. Il y avait quand même pas mal de contraintes, donc nous, justement, on essaye de ne pas faire de différence, c'est-à-dire d'offrir des logements de qualité, que ce soit du logement social ou pas. On avait des contraintes aussi en termes de vis-à-vis, le quartier n'est pas évident, donc par exemple pour la crèche on a essayé de plutôt tourner le bâtiment vers l'intérieur d'îlot. Les logements qui se trouvent au rez-de-chaussée par exemple, qui ont un vis-à-vis quand même un peu plus dur par rapport à la rue, ce sont des logements en duplex. Malgré le fait que ce soit une rénovation et qu'on soit dans un quartier quand même très dense et pas évident, on a vraiment voulu offrir un niveau de confort assez important.
Le fin mot sur la première.
Bonsoir Arnaud Pagès.
Bonsoir.
Alors, les villes de demain, on va les décortiquer comme vous le faites chez Michel Lafon, mais comment définir ce que peut être une ville? C'est déjà un concept très difficile aujourd'hui. Sur quoi vous êtes-vous basé?
Alors, une ville, pour commencer, c'est un objet dynamique. Donc, c'est un objet qui évolue et qui se transforme au cours de l'histoire, au fil des siècles, au fil du temps qui passe. Toutes les grandes villes qu'on connaît aujourd'hui ont toutes été très différentes par le passé. Donc pour commencer, c'est un objet dynamique. Ensuite, c'est un objet qui agrège en fait les populations. L'histoire des villes, elle commence toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'elle commence par une petite unité d'habitation, une sorte de village en fait, qui en fait au fil du temps va rassembler de plus en plus de monde, de plus en plus de bâtiments, de plus en plus d'infrastructures. Donc ça, seront les deux caractéristiques des villes, cet aspect très évolutif, très transformationnel, et cet aspect de concentration de population.
Bien sûr, on a vécu ces dernières décennies cette urbanisation à tout craint, cette désertification des campagnes. On a le sentiment qu'aujourd'hui, avec la nécessité des circuits courts, avec la volonté de retrouver un peu d'air et de vie, on va dire, plus simple, on aurait plutôt tendance à déserter les villes. Vous nous dites pas forcément?
Non, pas forcément, parce que, alors ça c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé après la pandémie de Covid, comme quoi il y avait un petit peu une sorte d'exode vers la campagne. En fait, il faut relativiser les choses, parce que c'est quand même en ville que la plupart des gens continuent d'habiter et de travailler surtout, et le télétravail permet pas à date de vraiment être une sorte d'accélérateur de cet rééquilibrage des populations. Donc la ville reste quand même l'endroit, là je rappelle quand même ces chiffres qui sont fournis par l'ONU, 55% des êtres humains sur Terre vivent en ville, quoi. Donc les villes sont majoritaires dans l'habitat global, on va dire. Et c'est pas une tendance qui est appelée vraiment à freiner. Il y a une forme de désurbanisation parce qu'il y a un léger tassement en effet des populations urbaines. Mais globalement, on reste quand même, Paris, c'est 2,2 millions d'habitants, par exemple. Alors peut-être qu'on va être à 2,1 millions d'habitants. Mais en tout cas, voilà, c'est des phénomènes qui sont légers. Il n'y a pas d'exode des citadins vers la campagne. Il y a un léger tassement, on va dire, quoi. Ça se limite à ça, en gros, globalement.
Alors qu'on a manifestement aussi le sentiment qu'il y a eu une espèce de fixisme, c'est-à-dire que l'on a cherché ces dernières années à conserver, on fait du façadisme, on conserve des façades, on essaye de ne pas trop toucher à un certain nombre d'éléments de la ville. Pour imaginer la ville du futur, il va falloir détruire et faire évoluer constamment.
Alors, faire évoluer, Assurément. Mais encore une fois, comme je le disais au début, l'évolution, elle est au cœur même du logiciel de la ville. Faire évoluer, c'est certain, parce que nous sommes face à des enjeux climatiques qui font que on peut pas garder les villes telles qu'elles sont en fait aujourd'hui. Ce modèle industriel qui est apparu au 19e siècle, alors ça vaut pour Bruxelles également, et puis qui s'est développé au 20e siècle, cette construction très industrielle de la ville, elle tient absolument plus la route face aux défis climatiques. Donc faire évoluer la ville, ça c'est une obligation, il faut la rendre à la fois durable et résiliente. Et c'est en fait réellement ce qui est en train de se passer. Dans toutes les grandes villes du monde, c'est un mouvement en fait vraiment mondial de transformation qui s'appuie plus ou moins sur les mêmes leviers, avec des spécificités bien sûr qui peuvent être locales ou régionales. Mais en tout cas, oui, les villes sont en pleine transformation. Donc ça, cette évolution, elle est absolument nécessaire.
Plus rapide qu'auparavant ?
Oui, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite parce que je pense que à la fois les municipalités et les acteurs de la ville ont compris qu'il y avait une urgence en fait. Ont compris qu'il fallait vraiment réagir et que si on ne faisait pas les choses et si on ne les faisait pas rapidement et en tout cas plus rapidement que par le passé, on allait vraiment se retrouver dans le mur quoi. Donc oui, les choses vont très vite. Je veux dire, la façon dont les grandes villes se transforment aujourd'hui, c'est assez impressionnant, notamment avec la végétalisation. Et c'est un mouvement qui, encore une fois, est global.
Est-ce que on peut définir qui fait la ville ? Est-ce que c'est l'autorité publique, l'architecte, le concepteur ? Est-ce que c'est l'habitant ou est-ce que c'est le promoteur ?
Eh bien, en fait, c'est tout ça à la fois. C'est vraiment un mix. Cette fabrication de la ville de demain, elle fait appel aux municipalités. Je veux dire, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, qui vont dans ce sens. À Paris, on a une maire qui est assez impopulaire, mais qui pourtant fait beaucoup de choses, en gros, en s'inspirant du logiciel un peu global de transformation actuelle, quoi. Donc ça veut dire végétaliser pour beaucoup. Les acteurs du BTP, les constructeurs sont également de la partie, les architectes et les urbanistes également, pour transformer, on va dire, l'architecture avec beaucoup de choses qui sont. J'ai toujours l'exemple en fait des ciments zéro carbone. Donc là, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus. Trouver un moyen de faire du ciment sans polluer, sans émettre de CO2, ça c'est un enjeu très fort. Les nouveaux bâtiments aussi qui apparaissent, qui intègrent la végétalisation dans leur façade pour accueillir aussi l'agriculture urbaine. Et puis bien évidemment, les habitants eux-mêmes, les citoyens, les citadins qui agissent. Aux États-Unis, il y a le mouvement des white roofs, les toits blancs. Parce que quand on peint son toit en blanc, en fait, on résiste beaucoup mieux, en fait, à l'augmentation des températures. C'est quelque chose qui refroidit, en fait, qui permet de réfléchir à l'ombre du soleil. Donc là, on est vraiment sur un mix où il y a à la fois le pouvoir politique, on va dire, il y a le marché, les entreprises, et puis il y a les citoyens et les citadins, quoi. Tout le monde est, en fait, de la partie.
Quand on imagine effectivement des solutions comme les white roofs qui permettent effectivement de gérer mieux la hausse des températures, on se dit ok, ça va dans le bon sens. Est-ce que le reste n'est pas un peu une forme d'alibi, cette végétalisation qui peut parfois aussi servir de succès d'année à une perte de la biodiversité dans nos campagnes? Effectivement, une agriculture urbaine, mais pourra-t-elle un jour subvenir aux besoins réels des habitants de la ville qui sont toujours aussi nombreux? Est-ce que tout ça n'est pas un peu du tape à l'œil ?
Non, la végétalisation, elle a prouvé son efficacité. Alors, ce n'est pas une solution miracle, bien sûr, mais on n'a pas de solution miracle. On a des bouts de solutions qu'on met ensemble. Si, elle prouve son efficacité parce qu'elle permet, si vous voulez, déjà de baisser naturellement la température des bâtiments. Ça, c'est des choses qui ont été observées, sur lesquelles beaucoup d'architectes travaillent actuellement. Donc on va gagner à peu près 2-3 degrés en fait en gros et sans utiliser une climatisation, un outil technologique qui va polluer. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Dans l'espace public, elle ombrage l'espace public et elle permet avec l'évapotranspiration de rafraîchir en fait l'atmosphère ambiante. Donc ça c'est des choses qui fonctionnent, je veux dire. Il y a aussi l'idée qu'avec les végétaux, on va activer la photosynthèse et qu'on va décarboner un petit peu, faut être réaliste, du CO2 qui est dans l'air. Pour l'agriculture urbaine, en fait, là, on est sur un enjeu qui est presque encore plus grave parce que le réchauffement climatique va faire drastiquement baisser les récoltes dans les campagnes, mais drastiquement. C'est-à-dire vraiment, là, on ne sera plus du tout au même niveau de production alimentaire. Et les villes dépendent essentiellement des campagnes qui sont soit situées dans le pays où elles sont, on va dire, implantées, soit à l'étranger. Donc, on va se retrouver face à des problèmes de pénurie alimentaire, peut-être même de famine, en fait, si on ne réagit pas. ce que nous disent les experts là-dessus, c'est que l'agriculture urbaine, on va dire au maximum de sa production, mais vraiment, vraiment, si on exploite la chose jusqu'au bout et qu'on prend tous les toits terrasses, qu'on prend tous les espaces qui peuvent être disponibles en ville, on arrive à peu près à 20%. On comble 20% des besoins alimentaires des citadins. Alors, pour une ville comme Paris, ça fait plus de 300 000 personnes. Pour une ville comme Bruxelles, ça doit faire, je pense, à peu près 60-70 000 personnes. Mais c'est quand même pas mal, au final. Disons que c'est un outil qu'on a pour essayer de contrebalancer ce risque de pénurie alimentaire. C'est pas non plus une solution miracle. Mais voilà, on a quand même ces outils-là qui sont à notre disposition et qui sont, au final, assez simples à activer, quoi.
Ces villes végétalisées, ces villes agri-urbanisées, en quoi entrent-elles dans le concept Smart City ? C'est le concept qu'on entend partout maintenant, tous les urbanistes le développent, l'autorité publique en parle énormément ici à Bruxelles comme ailleurs. Smart City, c'est quand même la ville ultra connectée, automatisée, intelligente, c'est la ville qui surveille aussi, c'est une ville qui peut parfois faire peur.
Oui, alors le concept de Smart City, il est né, je rappelle juste un petit peu, je vous donne quelques petits points, il est né à peu près au milieu des années 2000, quand le numérique a commencé à devenir quelque chose d'important, où il y a de plus en plus d'innovations, de progrès qui ont été réalisés, et on s'est dit que ce serait intéressant de l'appliquer à la ville. Mais le concept de Smart City en lui-même, on va dire qu'il a, il a quand même pris du plomb dans l'aile, parce qu'il a très vite été récupéré, bien sûr, par les géants du numérique, hein, les fameuses GAFAM, Google, Amazon, etc. Et avec ce problème, comme vous le disiez, en fait, de surveillance, en tout cas de contrôle des données. Et il y a beaucoup de projets qui sont allés dans le mur à cause de ça, où les citadins, les habitants ont dit « non, non, on n'en veut pas ». Donc c'est un concept aujourd'hui qui est quand même, on va dire, un peu sur le fil, et qui est un peu, on va dire, un petit peu à l'arrêt. En revanche, ce qu'on peut dire et ce qu'on a constaté avec des résultats tout à fait probants, c'est que le numérique en ville, il donne des résultats positifs quand même. Par exemple, sur les bâtiments, il a un effet très intéressant, c'est qu'il permet en fait de monitorer la pollution. En gros, vous mettez des capteurs, vous mettez une IA derrière, vous reliez ça au système d'énergie du bâtiment et vous pouvez dire, mais on se limite à ce niveau d'énergie dépensée, on s'assure qu'aucune ampoule reste allumée quand personne n'est dans la pièce, on module le chauffage et ça donne des résultats probants, ça permet de dépenser, de consommer moins d'énergie, donc d'émettre moins de CO2. Ça, on le sait. Deuxième gros avantage, ça permet de surveiller le bâtiment. Ça permet de voir si, par exemple, dans le bâtiment, à un moment donné, il y a une faiblesse structurelle qui apparaît au fil du temps, qui fait que il va y avoir une sorte de faille et qu'il y aura des émissions de chaleur en plus. Sans aller jusqu'à parler de passoire thermique, vous savez, dans les bâtiments, ils vivent en fait, hein, et à un moment donné, ils se dégradent et par endroits, il peut y avoir des endroits où il y a de la pollution qui s'émet davantage. La structure est fragilisée. Donc ça permet de le repérer, ça permet de le corriger, ça en fait, réellement. Donc c'est quand même un gros avantage à ce niveau-là. On peut monitorer la pollution, on peut s'assurer du bon état en fait des bâtiments et on s'est rendu compte que ça fonctionnait. C'est quand même un atout, réellement.
Oui, Arnaud Pagès, il y a quand même un furieux paradoxe. On sait que le big data, la smart connectée, finalement la connectique en elle-même et toute la digitalisation, c'est hyper consommateur d'énergie, c'est tout sauf carbon free. Donc on met en place via eux la surveillance d'émissions qu'ils sont eux-mêmes occupés à émettre.
Alors disons, alors moi ce que j'explique dans le livre, c'est que notre regard sur le numérique a déjà commencé en fait à changer, c'est-à-dire que ces questions de green IT, comme on dit, ces questions de pollution numérique, elles sont apparues, on commence à en prendre conscience, et je pense qu'avec le réchauffement climatique, on va passer, on va dire, d'un numérique futile à un numérique utile, on va être obligé de le faire en fait réellement. Il faut être réaliste, on n'ira pas contre la digitalisation de la société. Aujourd'hui, le numérique est présent dans nos vies, dans notre façon de travailler, dans notre rapport au monde, on va dire. On n'ira pas en arrière. Par contre, je pense que ce qui va se passer fondamentalement, c'est que ce numérique, il va être mis au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Toute cette formidable provision de données qu'on a en ville avec Uber, avec Amazon, avec toutes ces applications qui sont en effet très polluantes. Je veux dire, demain, quand on sera à plus de degrés ou plus 3 degrés, quand il y aura, comme je vous le disais tout à l'heure, des questions de pénurie alimentaire qui vont arriver, où vraiment il y aura certainement des populations beaucoup plus inquiètes encore qu'elles ne sont aujourd'hui des effets du réchauffement climatique. Alors ce numérique-là, il devra être utile. Il ne pourra plus avoir le choix. Et on va passer dans une autre conception, dans un autre rapport au numérique, où ça va devenir un outil de lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça veut dire que oui, le numérique émettra toujours un petit peu de pollution, mais il faut trouver le moyen intelligent pour le mettre au service de la société et de l'avenir, en fait.
Alors, vous vous êtes évidemment, vous l'avez dit, basé sur les tendances de fond, mais aussi les signaux faibles. Quels sont les signaux faibles à l'heure actuelle qui définissent, selon vous, la ville de demain ?
Ce qu'on peut noter, alors, les signaux faibles, disons que ce qu'on peut noter vraiment, c'est que dans toutes les villes du monde, c'est ce que je disais en fait au début, il y a ces projets, en fait, qui sont apparus, ces projets de végétalisation, qui se développent très vite. Mais un signal faible, à mon avis, qui serait vraiment extrêmement pertinent, c'est qu'aujourd'hui, les citadins, au début, c'était porté par des entreprises qui voulaient investir un petit peu dans l'agriculture urbaine, vous savez, les fameuses start-up, ça a beaucoup été ça. Et puis aujourd'hui, en fait, les citadins eux-mêmes commencent, en fait, à prendre la main. Ils commencent à eux-mêmes aller dans ce sens-là. Le mouvement des Wise Group dont je parlais, en fait, qui s'est beaucoup développé aux États-Unis, ça vient des citoyens, des citadins eux-mêmes. À Paris, on a plusieurs associations de citadins qui ont décidé de pousser en avant le solaire pour impulser plus d'énergie renouvelable dans la ville. Donc, peut-être que ce signal faible-là est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un basculement. Ce qui était au départ, en effet, plus du ressort, on va dire, des municipalités ou des entreprises, vient maintenant aussi dans la main des citadins, ce qui indique vraiment qu'il y a un mouvement de fond, en fait, qui est en train de se produire. Ça, je pense que c'est une évolution très intéressante.
En même temps, il va falloir que ces villes se rendent disponibles. Pour l'instant, elles sont plutôt dans l'ère du, et c'est le cas à Bruxelles, du refus de maintien de la grande pénétration des véhicules automobiles, bref, de ce qu'on appelle les nafteurs qui viennent travailler en ville et qui en repartent. Ces nafteurs sont vus maintenant comme un problème plus que comme une part de la communauté urbaine. Demain, pourtant, ces villes vont devoir permettre une circulation fluide, des transports en commun fluides, des connectiques et des connexions fluides physiques, on n'y est pas.
Non, on n'y est pas, mais néanmoins, je vous dis, la transformation est bien là. Mais je pense que la prochaine étape fondamentale, celle qui manque, un petit peu la brique qui manque encore, sans doute aujourd'hui, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table, d'avoir un vrai débat citoyen sur la transformation de la ville. Aujourd'hui, toutes ces initiatives, elles ne sont pas forcément reliées entre elles, ce que font les municipalités, ce que font les citadins, ce que font les entreprises, il n'y a pas vraiment une connectique entre elles, quoi. Il n'y a pas un lien qui permet en fait de fédérer tout ça dans un mouvement plus global. Certainement que la prochaine étape, ce sera ça, un véritable débat citoyen démocratique sur la façon dont on veut transformer en fait la ville. Aujourd'hui, en effet, on n'y est pas. Mais je pense que demain, il est fort possible que ce soit la prochaine étape, en effet, de la transformation.
Oui, pour l'instant, c'est encore beaucoup du top-down. C'est encore beaucoup l'autorité politique qui impose et des citoyens qui renâclent.
Oui, avec des citoyens aussi, comme je vous le disais, qui, eux, prennent la main, qui ont des initiatives locales et qui s'engagent. Mais après, il y a de la résistance, parce qu'évidemment, quand on transforme un modèle comme la ville, un objet aussi complexe, évidemment, ça crée des réactions. À Paris, typiquement, je ne sais pas comment ça se passe à Bruxelles, mais à Paris, on l'a bien vu, il y a beaucoup de défiance par rapport aux initiatives d'Anne Hidalgo. Mais au final, elle arrive quand même à faire des choses. Les gens ne sont pas contents, ils râlent. Mais est-ce que c'est vraiment une question de choix ? Après, j'en suis pas non plus forcément certain. Parce que quand tout le monde aura très chaud en ville et qu'il y aura de la surmortalité, ça va devenir compliqué. Mais oui, certainement que ce qu'il faut faire d'une manière ou d'une autre, c'est réunir tout le monde autour de la table. Il faut une plus grande concertation. Ça, c'est certain.
Pour l'instant, il y a quelques grands architectes. Hein, vous en avez signalé, évidemment, Philippe Stark, Gilles Babinet, Alain Damasio. Il y en a d'autres ici en Belgique aussi qui sont à la manœuvre. Est-ce qu'ils sont crédibles ? Est-ce qu'ils sont créatifs ? Ou bien est-ce qu'ils font l'équivalent de la haute couture ?
Non, ils sont tout à fait crédibles. Alors, je rappelle que Vincent Calbeau est belge, qui est vraiment, lui, est le chantre d'une architecture biomimétique. Donc, il s'inspire de la nature. Vincent Calbeau, il multiplie les projets en fait à travers le monde avec des immeubles qui sont végétalisés, qui sont circulaires, qui fonctionnent avec des énergies renouvelables. Mais attention, il faut bien rappeler une chose, c'est que tous ces projets d'architectes, ils sont vraiment disruptifs, ils sont révolutionnaires, ils apportent quelque chose de très positif. Mais le renouvellement de la ville, c'est 1% de nouveaux logements tous les ans en moyenne à peu près. Parce que l'essentiel est déjà là. Qu'il faut agir, cette nouvelle architecture, elle doit continuer en fait à progresser et à trouver des solutions toujours plus innovantes et efficaces, mais il faut aussi s'attaquer aux bâtis existants, et ça c'est moins le travail des architectes, mais en tout cas voilà, il faut des plans pour transformer le bâti existant. En France, on a un plan de rénovation énergétique du bâti, en fait, de tout, hein, de, aussi bien des bâtiments d'habitation que des entreprises, etc. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Regardez vers demain en se disant il y a une nouvelle architecture qui est assez révolutionnaire et qui donne des résultats, mais aussi considérer ce qui est déjà en place, qui est l'essentiel de la ville, pour le transformer. C'est-à-dire qu'il y a ces deux enjeux qui doivent en fait se croiser, quoi.
Et pour avoir le fin mot, il faut donc se dire à la fois qu'il faut plus de logements, il faut donc aussi des écoles, parce qu'on en manque pour les jeunes, il faut des infrastructures communes, sport, développement culturel et autres, il faut prendre en compte le bâti existant, il faut rénover le bâti public aussi bien que privé, il faut prévoir de la connectique, il faut prévoir de quoi se déplacer sans engorger et sans trop polluer, sauf qu'on ne peut quand même pas faire tabula rasa, raser Paris et reconstruire.
Non, mais personne n'a dit que c'était simple non plus. Donc, non, c'est évidemment une transformation qui est très compliquée à faire. Il faut faire les bons arbitrages. Voilà. C'est là où c'est compliqué. Alors, peut-être qu'on n'arrivera pas à transformer des villes exactement comme on le voudrait et à atteindre tous les objectifs. Il faut faire les bons arbitrages. D'où l'idée de la concertation citoyenne, en effet, qui est absolument nécessaire. Mais oui, en effet, c'est très compliqué. Il y a tout ça, en fait, qui rentre en ligne de compte.
Vous avez le sentiment, ouais, dans votre enquête, vous avez eu le sentiment que les autorités publiques sont suffisamment conscientes d'une part et suffisamment crédibles, ayant le poids nécessaire pour accomplir cette mutation ?
Alors, ce qui est certain, c'est que conscientes, elles le sont. Voilà, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'après la crise des subprimes en 2008, les grandes capitales, alors il y a Paris, il y a Londres, il y a New York, il y a Bruxelles certainement, ont considéré qu'elles avaient un problème de résilience en fait. Voilà. Elles se sont rendues compte qu'il y avait un centre de fragilité, un centre de faille en fait dans l'armure. Il fallait corriger le tir. Et après, il y a eu la COP en 2015, où là, ils se sont dit qu'il y avait un problème, un énorme problème climatique en fait réellement. Donc la prise de conscience, elle est bien là. La légitimité pour faire les choses, ma foi, quand un maire est élu, il a un mandat, il est élu sur un programme. Voilà, il faut mettre plus de fluidité, plus de dialogue là-dedans. Mais oui, les maires, ils vont jusqu'au bout. Je sais qu'Anne Hidalgo, comme je vous disais, elle n'est pas du tout appréciée, mais elle fait des choses. Voilà. Alors après, ça ne plaît pas à certains. D'autres s'en félicitent aussi. Oui, il faudrait peut-être encore un peu plus de légitimité, on va dire, politique, pour que les choses coulissent mieux, on va dire, quoi.
Mmh. Dernière rapide question. C'est valable pour tous les coins du monde, parce que les grandes capitales en Afrique, en Inde, en Chine, ce sont pas nos villes.
Hein. Non. Mais en Chine, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en Afrique, ou dans les pays du Moyen-Orient, il y a aussi cette prise de conscience. C'est plus compliqué, évidemment. Voilà. Il y a un peu moins de moyens. Mais je pense que fondamentalement, une des étapes aussi à venir, c'est un plus grand partage des pratiques entre les villes. Aujourd'hui, les maires des grandes villes se parlent énormément. Il faudrait davantage accompagner ce mouvement à échelle planétaire pour que les grandes villes se ressemblent. Parce qu'il y a un chiffre que j'ai pas cité, mais qu'il faut citer en fait réellement, c'est que les grandes villes aujourd'hui, c'est 70% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Donc c'est absolument colossal. Ce qui veut dire que si on arrive à réduire vraiment les émissions de CO2 au niveau de ces grandes villes, ça a un effet immédiat et très important, si vous voulez, quoi. Mmh. Donc oui, il faut davantage de dialogue entre toutes ces grandes capitales, toutes ces grandes mégapoles, pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route.
Allez réfléchir les villes de demain à travers ce livre exploratoire que Arnaud Pagès signe chez Michel Lafon. Merci Arnaud Pagès.
Merci à vous.